Chapitre 40. La matinée est déjà bien avancée lorsque Hunt me réveille. Il arrive avec le petit déjeuner sur un plateau et un regard effrayé dans ses yeux noirs. Je lui demande « Comment avez-vous fait pour trouver à manger ?»«
Il y a une sorte de petit restaurant dans la salle en bas, au rez-de-chaussée. Tout était déjà prêt, mais je n'ai vu personne. »
Je hoche la tête. La trattoria de la signora Angeletti.
Ce n'est pas une très bonne cuisinière, je crois.
Je me souviens des inquiétudes du docteur Clark à propos de mon régime. Il pensait que la phtisie s'attaquait à mon estomac et il m'astreignait à une diète sévère à base de lait et de pain, avec à peine un peu de poisson de temps en temps. Étrange le nombre de représentants souffrant de l'humanité qui sont partis affronter l'éternité en étant obsédés par leurs boyaux, leurs escarres ou le caractère misérable de leur régime. En voyant la tête qu'il fait, je demande à Hunt. Qu'y a-t-il ? Il ne cesse de regarder par la fenêtre. De la piazza monte le maudit bruit de la fontaine de Bernini.
Je suis allé faire un tour dehors pendant que vous dormiez,
me répond-il lentement.
Juste pour le cas où je serais tombé sur quelqu'un, ou bien sur un téléphone ou un terminal distance.
Je comprends.
Je venais à peine de quitter l'immeuble lorsque...
Il se tourne vers moi en passant le bout de sa langue entre ses lèvres sèches.
Il y a quelque chose dehors, Severn. En bas de l'escalier, dans la rue. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais je crois qu'il s'agit...
Du Gritch. Il hoche la tête.
Vous l'avez vu aussi?
Non, mais la chose ne me surprend pas tellement.
C'est terrible, Severn. Cela me donne la chair de poule. Tenez, vous pouvez le voir un tout petit peu dans l'ombre de l'escalier, de l'autre côté.
Je cherche à me lever, mais un soudain accès de toux et les glaires que je sens monter dans ma gorge et dans ma poitrine me clouent sur l'oreiller.
Je sais à quoi il ressemble, Hunt. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas là pour vous.
Mais il y a plus d'assurance dans ma voix que je n'en ressens réellement.
Vous pensez qu'il est là pour vous?
Je ne crois pas,
lui dis-je entre deux efforts pour respirer.
Je pense qu'il est là uniquement pour s'assurer que je ne cherche pas à partir, à trouver un autre endroit pour mourir.
Il revient vers le lit.
Vous n'allez pas mourir, Severn.
Je ne réponds pas. Il s'assoit sur la chaise à côté de moi et me tend une tasse de thé déjà en train de refroidir.
« Si vous mourrez, que deviendrai-je »
me demande-t-il.
« Je ne sais pas.
Honnêtement, si je meurs, je ne sais même pas ce que je deviendrai moi-même. » Il y a un certain solipsisme dans les maladies graves qui accapare toute l'attention d'un homme aussi sûrement qu'un trou noir attire tout ce qui a la malchance de passer dans son champ d'action. Le jour s'écoule lentement, et je suis exquisément conscient des mouvements du rayon du soleil qui caresse le mur mal crépi, du contact des draps sous ma main, de la fièvre qui monte en moi comme une nausée et alimente la fournaise de mon esprit, et surtout de la souffrance. Non pas de ma propre souffrance présente, car quelques heures ou quelques jours de contrictions dans ma gorge ou de brûlures dans ma poitrine sont à la rigueur supportables et même bienvenues presque, comme la rencontre d'un vieil ami indésirable dans une cité inconnue. Non, il s'agit de la souffrance des autres, de tous les autres. Elle entre en moi comme le fracas du verre éclaté, comme le marteau d'acier heurtant l'acier de l'enclume à coups répétés. Et il n'y a pas moyen de lui échapper. Mon cerveau capte cet horrible vacarme et le restructure comme de la poésie. Toute la journée et toute la nuit, la souffrance de l'univers afflue et coule dans les corridors enfiévrés de mon esprit sous forme de vers et de métaphores en vers, en une danse de langage complexe et sans fin, tantôt apaisante comme un solo de flûte, tantôt fracassante et stridente et déchaînée comme une douzaine d'orchestres en train d'accorder simultanément leurs instruments. Mais ce sont toujours des vers et de la poésie. Quelque peu avant le coucher du soleil, je me réveille d'un demi-sommeil, éparpillant les morceaux du rêve de Cassade en train de combattre le Gritch pour sauver les vies de Sol et de Brand Lamia, et je vois Hunt assis devant la fenêtre, son visage tout en longueur coloré par la lumière du crépuscule aux nuances de terre cuite.
Il est encore là.
Ma voix est aussi âpre que le frottement d'une lime sur la pierre. Hunt sursaute, puis se tourne vers moi avec un sourire d'excuse aux lèvres et la première rougeur que j'ai jamais vue sur ses joues austères.
« Le Gritch ?»
demande-t-il.
« Je ne sais pas. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu, mais je sens encore sa présence.
« Et vous ? » ajoute-t-il en me dévisageant.
« Comment vous sentez-vous ? »
« À l'agonie. » Je regrette aussitôt ce cri d'auto-apitoiement frivole, même si c'est la stricte vérité, lorsque je vois son expression chagrinée.
« Ne vous inquiétez pas, » lui dis-je d'une voix presque joviale. « Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Ce n'est pas vraiment moi qui meurs. Je n'existe qu'en tant que personnalité du technocentre. Ce qui est en train de mourir, ce n'est qu'un corps, un hybride de John Keats. » Une illusion âgée de 27 ans, de chair, de sang et de connotation d'emprunt.
Hunt vient s'asseoir au bord du lit. Je me rends compte, avec un choc, qu'il a changé les draps pendant la journée et qu'il a retiré le couvre-lit taché de sang pour me donner le sien à la place.
« Votre personnalité est une AI du technocentre, » me dit-il. Vous devez donc connaître un moyen d'entrer en contact avec l'infosphère.
Je secoue la tête, trop fatigué pour discuter.
Lorsque les Philomèles vous ont séquestré, c'est grâce à vos accès à l'infosphère que nous avons retrouvé votre trace,
insiste Hunt.
Vous n'êtes pas obligé de contacter personnellement Gladstone. Il suffit de laisser un message là où la sécurité peut le trouver.
« Impossible, » lui dis-je d'une voix rauque.
« Le technocentre s'y oppose. »« Ils vous ont fait obstacle ? Ils vous ont empêché de communiquer ? » ?»«
Pas encore. »« Mais c'est ce qu'ils feraient. »
J'égrène les mots entre deux râles, comme si je replaçais délicatement des œufs au fond d'un nid. Soudain, je me souviens d'un mot que j'avais envoyé à ma chère Fanny, peu après une grave hémorragie, mais près d'un an avant que la maladie ne me tue. J'avais écrit « Si je devais mourir maintenant, me suis-je dit, je n'ai laissé aucune œuvre immortelle derrière moi. Rien qui puisse rendre mes amis fiers de mon souvenir. Mais j'ai aimé le principe de la beauté en toute chose, et si j'en avais eu le temps, j'aurais su faire qu'on ne m'oublie pas. » Ces mots me frappent aujourd'hui, par leur égocentrisme futile et leur idiote naïveté. Pourtant, j'y crois encore avec l'énergie du désespoir. Si seulement j'avais eu le temps. Tous ces mois gâchés sur espérance à faire semblant d'être un artiste peintre, toutes ces journées passées avec Gladstone dans les antichambres du gouvernement, alors que j'aurais pu écrire.
Comment pouvez-vous en être certain si vous n'essayez pas ?
Me demande Hunt.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le simple effort de prononcer ces trois syllabes déclenche une quinte spasmodique qui ne prend fin que lorsque je crache deux sphères de sang à moitié solides dans la cuvette que Hunt est allé chercher précipitamment. Je me laisse aller en arrière en m'efforçant d'accommoder sur son visage. Il fait de plus en plus noir dans la chambre exiguë et nous n'avons pas encore allumé les lampes. Au dehors, la fontaine continue de gargouiller impitoyablement.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Dis-je encore une fois en faisant un effort pour m'agripper à la réalité malgré le sommeil et les rêves qui cherchent à m'entraîner.
Essayez quoi ? De laisser un message dans l'infosphère,
murmure Hunt.
De contacter quelqu'un. Quel message pourrions-nous laisser, Leg ?
C'est la première fois que je l'appelle par son prénom.
L'endroit où nous sommes. Notre enlèvement par le technocentre. Tout ce que vous voudrez.
D'accord, dis-je en fermant les yeux. Je vais essayer. Je ne pense pas qu'ils me laisseront faire, mais je vous promets d'essayer.
Je sens la main de Hunt sur la mienne. Malgré les vagues d'épuisement auxquelles je suis prêt de succomber, ce soudain contact humain suffit à me faire monter les larmes aux yeux. J'essaierai. Avant de m'abandonner au rêve ou à la mort, j'essaierai. Le colonel Fedman Kassad poussa le cri de guerre de la force et chargea dans la tempête de sable pour intercepter le Gritch avant qu'il n'eût franchi les 30 derniers mètres qui le séparaient de l'endroit où Sol Weintraub était accroupi à côté de Brown Lamia. Le Gritch s'immobilisa, sa tête pivota en un mouvement sans friction. Ses yeux rouges luisaient. Kassad arma son fusil d'assaut tout en dévalant la pente à une vitesse insensée. Le Gritch se décala. Kassad perçut son mouvement à travers le temps comme un flou lent. Il remarqua, en même temps, que tout mouvement avait cessé dans la vallée. Le sable demeurait figé dans l'air, et la lumière issue des tombeaux avait pris un aspect ambré, presque tangible. La combinaison de Kassad s'était, d'une manière ou d'une autre, décalée en même temps que le Gritch dont elle suivait les mouvements dans le temps. La tête du monstre se redressa, aux aguets, tandis que ses quatre bras se tendaient comme les lames d'un poignard et que ses doigts s'ouvraient en un claquement sec de bienvenue. Kassad s'arrêta dans sa course à 10 mètres de la créature et activa le fusil d'assaut, vitrifiant le sable sous ses pieds au moyen d'une salve à pleine puissance et à faisceau large. Le Gritch rougeoya tandis que sa carapace et ses jambes d'acier sculptées reflétaient l'embrasement qui montait de toutes parts. Puis le monstre commença à s'enfoncer, du haut de ses 3 mètres, dans le lac bouillonnant de sable fondu qui s'était formé sous ses pieds. Kassad poussa un cri de triomphe et s'avança, arrosant le Gritch et le sol autour de lui d'un faisceau d'énergie exactement de la même manière qu'il avait arrosé, un jour, avec un tuyau d'irrigation volé, les gamins des bidonvilles de Tarsis avec qui il jouait. Le Gritch continuait de s'enfoncer. Ses bras battaient dans le sable et la roche, essayant de trouver un appui solide. Des étincelles volaient de tous les côtés. Le monstre se décala de nouveau, faisant s'écouler le temps à l'envers, comme dans un film holo joué en arrière. Mais Kassad se décalait avec lui. Il comprit que c'était Moneta qui l'aidait et que leurs deux combinaisons étaient en phase pour qu'elle puisse le guider à travers le temps. Puis il arrosa de nouveau le monstre d'un faisceau à chaleur concentrée, plus forte qu'à la surface d'un soleil. Le sable se liquéfiait et les rochers prenaient feu. Embourbé dans ce chaudron de flammes et de roches fondues, le Gritch rejeta la tête en arrière et poussa un barrissement. Kassad faillit cesser de tirer tant il était surpris d'entendre des sons sortir de la créature. Le cri du Gritch ressemblait au beuglement d'un dragon mêlé au sifflement d'une tuyère à fusion. Les dents de Kassad vibrèrent, la montagne frémit et laissa tomber lentement vers le sol une pluie de poussière en suspens. Kassad régla son arme en position projectile à haute vélocité et 10 000 microfléchettes volèrent vers la tête de la créature. Le Gritch se décala encore, peut-être sur plusieurs années, à en juger par le vertige de transition que Kassad ressentit dans ses os et dans son cerveau. Il n'était plus dans la vallée, mais à bord d'un chariot à vent qui roulait bruyamment sur la mer des hautes herbes. Puis le temps s'écoula de nouveau normalement, et le Gritch fit un bond en avant, ses bras métalliques dégoulinant de verre fondu, pour saisir le fusil d'assaut de Kassad. Celui-ci ne lâcha pas l'arme. Et les deux adversaires entamèrent une danse titubante et maladroite. Le Gritch faisait des moulinets avec sa deuxième paire de bras et une jambe festonnée de piquants d'acier tandis que Kassad bondissait et feintait en s'accrochant désespérément à son fusil. Il se trouvait dans une sorte de petit compartiment. Moneta était là, dans un coin, à peine plus qu'une ombre. Une autre silhouette, grande, la tête revêtue d'une cagoule, se déplaçait au ralenti pour éviter le flou des armes et des bras en mouvement dans cet espace exigu. À travers les filtres de sa combinaison, Cassade reconnut le champ d'énergie bleu et mauve d'un délimiteur d'ergue dans l'espace, qui pulsait et grossissait à vue d'œil, puis se rétracta sous la violence temporelle des champs anentropiques organiques du Gritch. Le monstre réussit à lacérer la combinaison de Cassade, atteignant la chair et les muscles. Le sang éclaboussa les murs. Cassade lui introduisit le canon de son arme dans la gueule et fit feu à pleine puissance. Une volée de 2000 fléchettes à haute vélocité rejeta en arrière, comme un ressort, la tête de la créature et projeta son corps contre le mur opposé. Mais dans le même mouvement, le Gritch eut le temps d'enfoncer les piquants de sa jambe dans la cuisse de Cassade, faisant jaillir le sang en une spirale qui aspergea les fenêtres et les murs de l'étroite cabine du chariot avant. Le Gritch se décala de nouveau. Les dents serrées tandis que la combinaison compressait et suturait automatiquement ses blessures, Cassade jeta un regard à Moneta, hocha la tête une fois, puis suivit la créature à travers le temps et l'espace. Sol Weintraub et Braun Lamia regardèrent le terrible cyclone de lumière et de chaleur qui avait pris naissance et mouru à quelques mètres d'eux. Sol abritait la jeune femme de son corps, tandis que des fragments fumants de verre liquéfié retombaient autour d'eux, en sifflant au contact du sable froid. Puis le bruit disparut, la tempête de sable obscurcit la mare bouillonnante où toute cette violence s'était déchaînée, et le vent drapa la cape de Sol autour d'eux.
« Qu'est-ce que c'était ?»
demanda Brown, effrayé. Sol secoua la tête tout en l'aidant à se relever dans la tempête qui faisait rage.
« Les tombeaux sont en train de s'ouvrir !»
cria-t-il pour se faire entendre.
« Une sorte d'explosion liée au temps, peut-être !»
Brown tituba, retrouva son équilibre et posa sa main sur le bras de Sol.
« Rachel !»
hurla-t-elle pour couvrir les bruits de la tempête. Sol serra les poings. Sa barbe était déjà entièrement recouverte d'une croûte de sable.
« Le Gritch ! La brise ! Impossible d'entrer dans le sphinx ! J'attends !»
Brown hocha la tête. Elle plissa les yeux en direction du sphinx, qui n'était visible, à travers les tourbillons de sable, que sous la forme d'une masse aux contours vaguement luminescents.
« Vous vous sentez bien ?»
cria Sol.
« Hein ?
Vous vous sentez bien ?»
Elle hocha distraitement la tête, puis se toucha subitement le front. La dérivation neurale avait disparu. Pas seulement le câble incongru du Gritch, mais l'implant que Johnny lui avait fait mettre lorsqu'il se cachait dans la ruche des poisses, à une époque qui lui semblait incroyablement éloignée. Maintenant que la dérivation et la boucle de Schrön avaient définitivement disparu, il ne lui restait plus aucun moyen d'entrer en contact avec Johnny. Elle se souvenait de la manière dont Humon avait détruit la personnalité de son ex-amant en l'écrasant et en l'absorbant sans faire plus d'efforts que s'il s'agissait d'un insecte.
« Je vais très bien !»
dit-elle. Mais elle avait tant de mal à se tenir debout que Sol était obligé de la soutenir. Il était en train de lui crier quelque chose. Elle essaya de se concentrer, de s'ancrer fermement ici et maintenant. Après son passage dans la mégasphère, la réalité lui paraissait exiguë.
« Impossible de parler ici !»
criait Sol.
« Retournez au sphinx !»
Elle secoua la tête. Elle désigna du doigt la falaise, au nord de la vallée, où l'énorme arbre du Gritch se profilait entre deux passages de nuages et de sable.
« Le poète Silenus, il est là! Je l'ai vu! On ne peut rien faire pour lui !»
cria Sol. Il l'abritait de son mieux avec sa cape de fibroplaste sur laquelle le sable crépitait comme autant de fléchettes sur une armure. Elle se serrait contre lui, sentant la chaleur de son corps, souhaitant presque imiter le bébé Rachel, aspirant à dormir, dormir dans ses bras.
« On pourrait essayer !»
insista-t-elle.
« J'ai repéré des connexions en sortant de la mégasphère !» L'arbre aux épines est relié d'une manière ou d'une autre au palais du Gritch. Si nous pouvions arriver jusque-là, nous trouverions peut-être un moyen de libérer Silenus.
Il secoua la tête.
Je ne peux pas m'éloigner du sphinx. Rachel!
Elle comprenait. Elle lui toucha la joue, puis se blottit contre lui. Elle sentait le contact de sa barbe rêche contre sa propre joue.
Les tombeaux sont en train de s'ouvrir,
dit-elle.
J'ignore si nous aurons une autre occasion.
Il y avait des larmes dans les yeux de Sol.
Je sais! Je voudrais pouvoir faire quelque chose, mais je préfère ne pas m'éloigner du sphinx! Pour le chaos! Le chaos, elle! Vous avez raison,
lui dit Brown.
Retournez là-bas. Je vais jusqu'au palais pour essayer de voir comment il est relié à l'arbre.
Sol hocha la tête d'un air misérable.
Vous dites que vous étiez dans la mégasphère,
cria-t-il.
Qu'avez-vous vu là-bas? Qu'avez-vous appris? Votre personnalité qui tienne est-elle... Nous en reparlerons à mon retour.
Elle recula pour mieux voir son visage. Un masque de douleur recouvrait ses traits. Son expression était celle d'un père qui vient de perdre son enfant.
Retournez là-bas,
répéta-t-elle d'une voix décidée.
Rendez-vous au sphinx dans une heure au plus tard.
Il se frotta la barbe.
Il ne reste que vous et moi, Brown. Nous ne devrions peut-être pas nous séparer. Il le faut, provisoirement,
lui cria Brown en s'éloignant déjà, ses vêtements soulevés par le vent.
À tout à l'heure, Sol.
Elle s'éloigna rapidement, de peur de céder à la tentation de retourner se blottir dans ses bras. Le vent était de plus en plus fort. Il soufflait maintenant depuis l'entrée de la vallée, et elle recevait du sable en plein dans les yeux et sur les joues. Il fallait qu'elle baisse la tête en permanence pour ne pas trop s'écarter du sentier. La lumière intermittente des tombeaux la guidait. Elle sentait les marées du temps qui l'empoignaient comme pour l'arracher du sol. Quelques minutes plus tard, elle eut vaguement conscience d'avoir dépassé l'obélisque. Elle reconnut les débris qui jonchaient le sentier devant le monolithe de cristal. Le sphinx et Sol, derrière elle, n'était plus visible. Le tombeau de jade n'était qu'une pâle lueur verdâtre au milieu des tourbillons de sable de cauchemar. Elle s'immobilisa, titubant légèrement sous la force du vent et des courants anthropiques. Elle avait encore 500 mètres à parcourir dans la vallée pour arriver au palais du Gritch. Que ferait-elle en arrivant là-bas? En quoi le fait de connaître l'existence d'un lien entre le tombeau et l'arbre allait-il lui servir? Et qu'est-ce que ce foutu poète avait fait pour elle, excepté l'injurier et la faire sortir de ses gonds quand ils étaient ensemble? Pourquoi risquait-elle sa vie pour lui? Le vent hurlait dans la vallée. Cependant, au-dessus du vacarme, Brown avait l'impression d'entendre des hurlements plus pressants, plus humains. Elle tourna la tête en direction des falaises du nord, mais le sable obscurcissait tout. Elle pencha la tête en avant, remonta le col de sa veste et continua d'avancer contre le vent. Avant même que Gladstone eût quitté la niche Mégatrans, un appel retentit et elle reprit sa place devant le foyer holo qu'elle fixa avec intensité. Le vaisseau du consul venait d'accuser réception du message, mais aucune transmission ne suivait. Peut-être avait-il changé d'avis. Non. Les colonnes de données flottant dans le prisme vertical du foyer avaient indiqué que la salve provenait du système de Mare Infinitus. C'était l'amiral William Ajuntali qui l'appelait, en se servant du code personnel qu'elle lui avait communiqué. Les responsables de la force spatiale avaient été indignés lorsqu'elle avait insisté pour promouvoir le jeune capitaine de frégate au poste d'agent de liaison du gouvernement à l'occasion de l'offensive initialement prévue dans le système d'Hébron. À la suite de la destruction d'Evans Gate et du Bosquet de Dieu, la flotte avait été transférée dans le système de Mare Infinitus. 74 gros bâtiments de combat protégés par des vaisseaux torches lourdement armés et par une nuée de chasseurs rapides. Leur mission était de percer le flanc de l'essaim en mouvement et d'en attaquer rapidement le cœur. Lee était le contact et l'espion de la présidence. Son nouveau grade lui permettait de se tenir au courant de toutes les décisions du commandement. Seuls 4 officiers de la force spatiale lui étaient supérieurs en grade. Gladstone avait tenu à ce qu'il fasse partie de l'expédition pour la tenir personnellement informée du déroulement des opérations. Le foyer s'embruma et le visage décidé de William Ajunta Lee remplit l'espace.
H. Présidente, voici mon rapport, comme vous l'avez ordonné. La force d'intervention 181.2 s'est distransportée avec succès dans le système 3996.12.22.
Elle battit des paupières, surprise, avant de se souvenir qu'il s'agissait de la dénomination officielle du système abritant Marine Finitus. En dehors des mondes du Retz, les coordonnées devenaient complexes.
Les unités de combat de l'essaim se trouvent encore à 120 minutes de la sphère de danger du monde cible, était en train de dire Lee.
Gladstone savait que la sphère de danger avait un rayon d'environ 0,13 UA, distance à laquelle les armes habituelles commençaient à être efficaces, malgré les défenses planétaires. Mais Marine Finitus ne possédait pas de défense planétaire.
Heure standard du Retz, estimée pour le contact avec les éléments les plus avancés, 17h, 32 minutes et 26 secondes, soit dans 25 minutes environ, poursuivit le jeune amiral. La force d'intervention est configurée de manière à obtenir une pénétration maximale. 2 vaisseaux portiers assureront le transfert de nouvelles troupes et de nouvelles armes jusqu'au moment où les terminaux distants seront fermés en vue des combats. Le croiseur qui porte mon pavillon s'appelle l'Odyssée de Garden. Il se chargera d'exécuter vos ordres personnels à la première occasion. William Lee, communication terminée.
L'image se contracta en une sphère blanche et tourbillonnante, tandis que les codes de transmission cessaient de défiler.
Réponse, demanda l'ordinateur du transmetteur.
Message reçu, fit Gladstone. Continuez.
Elle passa dans son bureau où elle trouva Sedeptra Akazi qui l'attendait, son joli front plissé de contrariété.
Qu'y a-t-il? Le conseil de guerre est prêt à reprendre la séance, mais le sénateur Kolchev veut vous voir d'abord au sujet d'une affaire qu'il dit être extrêmement urgente.
Faites-le venir. Dites au conseil que j'en ai encore pour 5 minutes.
Elle prit place derrière son bureau antique et résista à la tentation de fermer les yeux. Elle était très lasse. Mais ses yeux étaient ouverts lorsque Kolchev entra.
Asseyez-vous, Gabriel Fiodor.
Le Lusien massif se mit à faire les 100 pas.
M'asseoir? Mon œil! Vous êtes au courant de ce qui se passe, Meina!
Elle sourit malgré sa fatigue.
Vous voulez parler de la guerre? De la fin de l'existence que nous avons connue? C'est ça?
Il se frappa du poing la paume de la main gauche.
Non! Ce n'est pas de ça que je veux parler, bon Dieu. Je veux parler des retombées politiques. Vous n'avez pas suivi les débats de la Pangermie?
Chaque fois que j'ai un moment.
Vous savez déjà que certains sénateurs et personnages influents en dehors du Sénat cherchent des appuis pour provoquer votre chute lors de la prochaine motion de confiance. La chose est inévitable, Meina. C'est une simple question de temps.
Je le sais, Gabriel. Pourquoi ne voulez-vous pas vous asseoir? Nous avons encore 1 minute ou 2 avant la reprise du conseil.
Kolchev se laissa presque littéralement tomber dans un fauteuil.
Vous ne comprenez pas. Même ma propre femme, Meina, est en train de collectionner les voix pour vous abattre.
Le sourire de Gladstone s'élargit.
Sudette n'a jamais fait partie de mes supporters inconditionnels, Gabriel.
Son sourire disparut.
Combien de temps me reste-t-il, à votre avis?
8 heures. Moins, peut-être.
Il ne m'en faut pas plus,
murmura Gladstone en hochant la tête.
Pas plus? Mais de quoi diable parlez-vous? Qui d'autre que vous peut diriger l'hégémonie en temps de guerre?
Vous, par exemple. Je ne doute pas que vous soyez mon successeur.
Kolchev grommela quelque chose.
La guerre ne durera peut-être pas si longtemps,
fit Gladstone comme si elle se parlait à elle-même.
Hein? Oui, vous voulez parler de la super arme du technocentre. C'est vrai, Albedo a construit un prototype quelque part dans une base de la Force, et il voudrait que le Conseil de guerre prenne le temps d'aller l'examiner. Sacrée perte de temps, si vous me demandez mon avis.
Gladstone sentit comme une main froide qui se refermait sur son cœur. Le bâton de la mort ? Le technocentre possède un prototype ?
Plus qu'un prototype. Un de nos vaisseaux torches en est déjà armé.
Qui a autorisé cela, Gabriel ?
Morpurgo a donné le feu vert pour les recherches, fit le sénateur en s'asseyant lourdement. Quel mal y a-t-il, Meina ? On ne peut pas utiliser cette arme sans l'accord de la présidence.
Elle se tourna vers son ancien collègue au Sénat. Nous sommes bien loin de la Pax Hegemonica, n'est-ce pas, Gabriel ?
Le Lusien grogna de nouveau. Ses traits épais semblaient ployés sous un lourd fardeau de souffrance.
« Nous l'avons cherché, » dit-il. Le gouvernement précédent a écouté le centre quand il lui a suggéré de se servir de Brescia comme appât pour piéger l'un des essaims. Après cela, vous avez écouté d'autres éléments du centre qui vous demandaient d'annexer Hyperion au Retz.
« Vous pensez que j'ai élargi le conflit en envoyant la flotte défendre Hyperion ?» Kolchev releva la tête.
« On ne peut pas dire cela, non. C'est peu plausible. » Les vaisseaux extra sont en route depuis plus d'un siècle. Si seulement nous nous en étions aperçus plus tôt, si nous avions pu négocier pour éviter ce merdier.
Le père Soc de Gladstone bourdonna. C'est l'heure de retourner là-bas, dit-elle d'une voix douce. Le conseiller Albedo est sans doute anxieux de nous montrer l'arme suprême qui va nous permettre de gagner cette guerre.